Je dirais pas que je suis un excentrique ou un marginal. Tout d'abord, ce serait faux. Et le dire qu'on est marginal, généralement, c'est prouver qu'on s'en fait à croire pas mal. Et de toute façon, tout le monde aime bien se dire qu'il est différent. Ça donne des raisons de s'apitoyer sur soi-même ou de lever un peu le nez sur la masse ordinaire qui nous entoure. Mais pour le bien de mon récit, disons que je ne suis pas le citoyen type. Disons que j'ai pas ma carte de membre de la majorité silencieuse. Disons que j'ai le talent de trouver le défaut dans à peu près tout, alors j'aime à peu près rien. Disons que quand vient le temps de faire du small talk, j'ai rien qui me vienne une fois que j'acquiesçais que, ben, effectivement, il fait chaud ou froid. Disons que j'ai un humour parfois surprenant et disons que mon esprit a tendance à faire souvent des liens inattendus entre deux choses. Pour mon travail de journaliste, c'est parfait parce que c'est très utile de penser de travers. On n'est pas là pour parler de ce que le monde sait déjà. Mais dans ma vie sociale, ça n'a pas toujours été facile. Pendant longtemps, j'ai eu un seul ami à la fois. Généralement, l'ami est un mélange de « je m'entends bien avec » et de « lui aussi, il est pas mal tout seul ». En arrivant au secondaire, c'était encore comme ça. Mais honnêtement, c'était quand même pas mal de ma faute. J'avais un humour particulier, pas toujours facile à comprendre, entre autres parce que pas toujours réussi. J'en mettais pas mal aussi. Si on me donnait aujourd'hui un VHS de moi à l'époque, je pense que je pourrais pas m'endurer plus que 3-4 minutes. J'étais pas mal tout seul, donc. J'avais de la difficulté à me fondre dans le groupe. Puis un jour, un gars pas mal plus cool que moi a commencé à trouver que j'étais drôle et il a fait de la pression sur son groupe d'amis pour qu'on s'intéresse un peu à moi. « Je te le dis, il est drôle, Mathieu! » Étonnamment, ça a marché. Tranquillement, sans trop changer, quand même un peu, j'ai commencé à faire partie d'une gang. J'ai cessé d'être complètement anormal, si tant est que je l'étais avant. Le cinéaste Pierre Falardeau a déjà dit « Je me suis aperçu que j'étais pas un marginal, je me suis rendu compte qu'on m'avait marginalisé. » De la même façon, je me suis aperçu que c'est pas que j'étais anormal, c'est qu'on m'avait pas encore rendu normal. Parce qu'au fond, on est tous normaux. Seulement, des fois, on est des normalités en attente de reconnaissance. Et le plus beau cadeau qu'on puisse donner à quelqu'un, un jeune particulièrement, c'est de le laisser être bizarre, sans que ce soit anormal.
Écoutez dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Et cette semaine, le mot c'est « normal ». Pour vous, encore une fois, on a des reportages, des extraits de films, de la musique. Et cette semaine, beaucoup de gens vont venir nous livrer leur vision de la normalité. Et on commence ça avec Mathieu Charlebois.
Comme je le disais plus tôt, s'il y a une chose qui nous rend tous pareils, c'est qu'on s'imagine tous un peu ou même beaucoup différents. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je me permettais de croire qu'un jour, quand je prendrais ma retraite, on aurait de belles choses à dire de moi, qu'on organiserait une soirée où des gens viendraient peut-être témoigner de comment je suis venu, peut-être, changer leur vie, que l'on pourrait énumérer mes créations et que ça pourrait être impressionnant comme liste. Ah, et j'avais le choix, là. Est-ce que j'allais devenir un musicien, arrangeur, compositeur influent? Est-ce que j'allais devenir un scripteur pour les humoristes les plus drôles? Est-ce que j'allais devenir un personnage important de la radio? Est-ce qu'on allait me reconnaître au dépanneur grâce à ma voix? Est-ce que j'allais trouver l'idée, le site web que tout le monde allait utiliser? J'étais jeune, j'avais encore le temps de devenir quelqu'un d'exception. Puis, même si je me suis débattu, même si j'ai travaillé fort, même si j'ai pas beaucoup dormi pendant quelques années, même si j'y ai mis tout mon cœur, le temps a passé et je suis pas vraiment plus proche de mes rêves de grandeur que quand j'ai commencé. Quand même un peu, mais il reste pas mal de chemin à faire. Il a bien fallu me rendre à l'évidence, je suis cruellement ordinaire, épouvantablement normal. Je suis pas mauvais, mais je suis pas génial, je suis juste bien normal. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, j'ai dû apprivoiser ma normalité. J'ai dû accepter ma normalité. Et j'en ai profité pour me faire une promesse. Je vais peut-être être normal, mais je vais l'être du mieux que je peux. Je vais être le meilleur normal possible.
Je voulais être Jimi Hendrix, mais j'ai pas de guitare. Puis faut qu'on ait des accords. Je voulais être Superman, mais le suit me fait pas. Sauver le monde, c'est pas pour moi. Je voulais être l'homme de 6 millions, mais à 15 000 par année, je suis mieux de pas trop dépenser. Je voulais être La révélation de l'année, j'ai pas tenu bon. Dans mes résolutions, je voulais être l'employé du mois, mais je suis loin d'être vite vite ni photogénique. Je voulais être la surprise de la soirée. Je me suis pointé le lendemain du party. Je voulais être super, mais moi je carbure à l'ordinaire. Je voulais être celui qu'on n'attendait pas. J'ai tout bousillé quand j'ai téléphoné. Je voulais être le nouveau messie, mais y'en a déjà trop. Faut prendre un numéro. Je voulais être premier ministre, mais j'aime pas l'avarice, puis j'ai aucune malice. Je voulais être super, mais moi je carbure à l'ordinaire. Je voulais pas être pompiste, mais c'est comme ça, c'est un peu triste. C'est drôle. On m'a refusé le rôle. Je voulais être l'homme qui a vu l'ours, mais chez nous, à bel oeil, y'a juste des écureuils. Je voulais être Monsieur X. Même lui, j'imagine, trouve trop anonyme.
Comment est-ce que ça commence dans la vie à valer des sabres?
Si tu arrives à un moment donné qu'il y a un loyer à payer, puis tu te dis, comment je vais faire? Non, sans blague, ça m'est arrivé parce que j'ai lu un livre, puis j'ai tombé là-dessus, puis je me suis dit, tiens, j'ai jamais vu ça live. Je me suis mis à informer, il n'y avait personne qui faisait ça. Je me suis mis à entraîner, puis le faire.
Comment est-ce qu'on s'entraîne?
C'est dangereux? Oui, c'est très dangereux. C'est ça, c'est des techniques de yoga, c'est beaucoup de connaissances d'anatomie. Je m'appelle Ishwan Bettiar et je suis leveleur de sabre et leveleur de feu avec Blue Mushroom.
Et puis moi, je suis Miss Bon Bon Bombay et puis je suis la maîtresse de piste. Je marche sur de la vitre cassée. Je suis une artiste de burlesque international. Et puis c'est ça, je suis membre de la troupe de Blue Mushroom Circus Psy Show. C'est moi qui gère la troupe. C'est moi qui introduis les freaks, qui introduis les numéros, qui essaie de garder tout le monde en ligne.
Tu viens de dire toi-même les freaks. Comment est-ce que vous vous définissez?
On se définit un peu, c'est freak show, cabaret, vaudeville, ancien cirque. C'est un peu comme ça qu'on se définit.
Tu es d'accord avec la notion de freak?
Le freak, c'est un peu le terme traditionnel pour ce genre de show-là. Dans les freak shows antérieurs, il y avait vraiment le monde né avec des anomalies, un monsieur deux têtes. Monsieur à trois jambes, une grosse femme, des trucs comme ça. Mais il y a aussi des numéros, des freaks travaillants, comme des éveilleurs de sabre ou
X numéros. Freak
travaillant? Ouais, c'est une façon de dire hors le normal, hors le traditionnel.
Mm-hmm. Et puis toi, comment est-ce que t'es arrivé à rejoindre une troupe plutôt burlesque?
Ben moi, en tant qu'artiste burlesque, j'étais venue à Montréal en 2009. J'ai fait le Festival de Montréal. J'ai gagné le festival avec un numéro que j'appelle « La danse de la mort ». Puis c'est l'histoire d'une femme qui tue son mari la soirée de ses noces. Puis c'est une danse que je fais comme une marionnette. Je fais une danse avec un squelette. Et puis il y avait une compagnie de cirque qui ont vu la danse. Puis dans les années 20, il y avait « The Dance of Death ». Puis cette compagnie n'avait pas trouvé encore ce numéro-là. Ça faisait deux ans qu'ils cherchaient. Ils avaient déjà fait toutes les banners, tout. Ils m'ont vu, ils m'ont trouvé à Vancouver et puis ils m'ont amené à Montréal. C'est comme ça que j'ai rencontré Ishvan Bettiar, The Mighty Leviticus, qui est notre homme fort dans la troupe.
Il y a un homme fort qui fait des prouesses traditionnelles d'homme fort, mais aussi des nouveaux développements.
Ben, il est en développement,
c'est le métier d'homme fort. Oui. C'est sûr qu'il y a des nouveaux trucs que tu trouves et d'autres trucs que tu ne trouves plus.
Des fois, on se fait mal, puis on doit changer d'idée, puis faire quelque chose d'autre.
Par contre, il déchire un bouton de téléphone en deux. Si tu as déjà essayé ça à la maison, c'est très dur. Mais je te dis un nouveau truc parce que là, des boutons de téléphone, c'est de plus en plus dur à trouver. Le monde, il fait ça sur Internet. Fait que là, il fait quoi, tu sais?
Il déchire un laptop?
J'espère que non. Non, mais tu vois, t'es toujours obligé à quand même développer des nouveaux trucs. Mm-hmm. Fait que là, il développe un peu plus aussi dans la discipline de fakir. Il est en train d'apprendre des trucs qui touchent à mes métiers. Ben, c'est ça, on joue un peu dans tout. Il fait aussi, par un accident qui est arrivé, il a découvert qu'il passe si mal avec l'électricité. Fait que là, il s'assoit sur une chaise électrique.
Oh, mon Dieu.
On a tout un nouveau numéro avec ça. C'est quand même très bon.
Mais vous, est-ce que vous êtes déjà blessé?
Oui.
Oui.
Ouais. Moi, je me suis coupé les pieds parce que je marche sur de la vitre cassée et puis je saute dans la vitre cassée. Alors, je me suis coupé les pieds une couple de fois. Et puis, sur les lits de clous, je me suis déchiré les bras durant un spectacle. Mais je veux dire, d'une façon, c'est comme un peu, ça me dérange pas parce que c'est comme les gens, là, quand ils te voient saigner sur scène, ils réalisent, ben, c'est vrai ce qu'ils font, là. Tu sais, c'est pas des farces. C'est tout ce qu'on fait, c'est on s'entraîne, on s'habitue, on essaie de se bâtir un armor sur notre corps pour continuer. Puis, c'est ça.
Et toi, tu t'es déjà blessé?
Oui, à plusieurs reprises.
À l'intérieur de
la... Oui, à l'intérieur, bien sûr. Oh. Mais another day, another dagger.
Est-ce que, là, moi, je vous ai devant moi, je ne vous appellerai jamais des freaks. Mm-hmm. Vous m'avez l'air tout à fait normaux. Mm-hmm. Comment est-ce que vous voyez ça? C'est quoi votre notion de la normalité? Est-ce que vous sortez de la norme ou vous êtes normaux?
Moi, je me trouve normal.
Tu te trouves normal?
Je trouve que c'est la plupart du monde qui ne sont pas normal.
Mm-hmm. Ah, bien dit.
Non, mais, tu sais, tu prends par exemple... C'est sûr, OK, c'est pas habituel de voir quelqu'un s'enfoncer une épée dans la gorge. Par contre, c'est très vieux. Il date de 5000 ans, au moins. 5000 ans écrit, là, tu sais. Mm-hmm. Il y a des pyramides en Égypte, avec ils parlent des avaleurs de sable. C'est vieux. Le monde qui faisait ça à l'époque, ils faisaient ça pour montrer leur foi en Dieu ou en... En quelque sorte, ce soit qu'il ne va pas crever, quoi.
Et toi?
Ben, je suis très conscient que je fais face à la mort à chaque fois que je le fais. Ben, c'est normal, la vie. Ouais. C'est normal de faire face à la mort. C'est pas normal comme on fonctionne aujourd'hui. On n'est pas conscient de la mort. T'sais. À chaque fois que tu quittes ta maison, tu peux te faire tuer par un char ou par un fou avec une carabine ou un accident par rapport. T'sais. On ne sait jamais. T'sais. On s'en va à l'épicerie acheter un poulet qui est dans un styro en cellophane. C'est pas normal. T'sais. C'est normal, tu es ton propre bouffe, t'es conscient, c'est une vie, t'es conscient. C'est pas normal de pas faire face à la mort. T'sais.
Ben moi, je me trouve tout à fait normal. Moi, je veux juste vivre ma vie de ma façon et puis essayer de créer de l'art et de créer des trucs puis de toujours me pousser en tant qu'artiste, en tant que personne. Alors, Ouais, moi, je trouve que c'est... Je suis normale. Ma mère est pas contente avec qu'est-ce que je fais avec ma vie en ce moment là, tu sais. Elle trouve pas ça normal. Mais mon père, lui, c'est comme, c'est cool parce que je vis ma passion puis je fais ce que je veux. Alors, c'est ça.
Là, c'est Ovid, personnage joué par Gabriel Arcan, dans le film Les Ploufs, réalisé par Gilles Carle en 1981. Et comme vous vous apprêtez à l'entendre, le gars, qui est un petit peu chaud d'œil, a une grande annonce à faire. Cet extrait-là, selon moi, permet de se questionner sur vraiment plusieurs pans de la notion de normalité.
Oui, mes enfants, j'ai laissé ma situation et j'entre demain au monastère des Dominicains. Comme frère convainc. Êtes-vous contente, maman?
J'avais décidé de me faire arracher toutes les dents la semaine prochaine puis me faire poser un beau dentier. Tout le prix de la forme manufacture, ça coûte à peu près une quarantaine de piastres. Mais comme on fait depuis plus de pension, je vais attendre.
À part maman, on peut pas dire que vous êtes bouleversé. Hein?
On l'est en dedans,
en fait. Ouais, on l'est en dedans.
Vous voulez chanter de l'opéra, vous? Vous faites rire de vous? Vous vous comportez en monsieur avec les dames? Vous aimez mieux les champions? Vous cherchez une meilleure situation dans un bureau? Vous manquez de compétences, si? Il n'y a pas de place nulle part pour les Ovid Ploufs du monde entier. Je vais rentrer demain au monastère. Allez-vous me prêter votre valise de noces?
Dis-moi ce que t'en penses. Je regarde.
charmant que le cul des filles. T'es normal, même sur ton pire.
Je suis débarquée à Bamako, la capitale du Mali, pour faire un stage en 2010. Je savais pas trop à quoi m'attendre en arrivant. Bon, disons que je savais que j'allais avoir chaud, que je mangerais du riz avec de la sauce et qu'il faudrait que je mette bien de l'insecticide pour contrer cette effroyable malaria qui fait si peur aux Toubabou. C'est comme ça qu'on nous appelle, nous les Blancs, au Mali. Dès les premiers jours, je tente de m'acclimater. Mais c'est pas si facile. Je n'ai pas de repères. Tout est désordonné. Les routes sont comme des chemins mal définis. Je peux pas vraiment me déplacer seule, car les fourgons qui servent de bus vont un peu n'importe où et les conducteurs parlent généralement bambara. Je me suis perdue au début. Beaucoup et souvent. Et à un moment donné, j'ai appris un peu de bambara. Metasugu Nikurala. Ça veut dire je m'en vais au nouveau marché. Au moins, je pouvais me rendre au travail. Et pour 10 cents, une aubaine. Au travail, eh bien, on travaille lentement. On discute. Beaucoup. Tout le temps. Les rares moments où je peux être seule, mes collègues trouvent que je travaille beaucoup trop parce que je suis rivée devant un écran d'ordinateur, en belle occidentale que je suis. En fait, je cherche du réconfort sur les médias sociaux, sur les chats, des repères. Parce que quand j'écoute mes collègues, je ne comprends pas tout. D'abord, on ne parle pas toujours en français. J'ai beau connaître les mots en bambara qui équivalent à « oui », « non », « aller », « manger », « dormir », « maison », « bon » et « mauvais », c'est pas vraiment suffisant. Et souvent, ils se traitent de voleurs, d'esclaves, de moins que rien. « Tu es mon fils, toi », crie ma collègue à son patron, visiblement plus âgé qu'elle. « Toi, tu me voles toujours, tu n'es qu'un voleur », crie un autre. Là, au niveau des repères, j'aurais vraiment eu besoin d'une voix intérieure malienne pour me traduire ce qui se passait. Je ne comprenais rien, niet nada nitch. Ça n'avait pas l'air d'être des blagues, leur histoire d'esclaves. Je ne voulais surtout pas m'en mêler, je ne posais pas de questions, mais je les trouvais, disons, un peu intenses. Puis, à un moment donné, on m'a donné un nom. Moi, je m'appelle Fanta Sangare. Sangare, c'est un nom peul, un peuple nomade qui élève les chèvres et de qui, paraît-il, il faut se méfier. Mais c'est faux. En fait, les peuls, ce sont les meilleurs, les plus beaux, les plus courageux. Voilà ce que sont les peuls, mon peuple. Une fois que tu sais que ton peuple, c'est le meilleur, on te présente tes cousins. Dans mon cas, ce sont les forgerons. Et eux, ce sont des moins que rien. Mais bon, pour comprendre, il faut partir du début. Il y a des centaines d'années, il y aurait eu un sort qui a ficelé des peuples et des familles en Afrique de l'Ouest. On appelle ces liens le cousinage de parenté. Les cousins ne peuvent pas se marier entre eux, ils se créent des bêtises continuellement, même s'ils ne se connaissent pas, mais ils doivent toujours s'entraider. Tu ne peux pas passer aux douanes et ton cousin est douanier? Tu l'insultes, il t'insulte et ensuite il te laissera passer. C'est une loi implicite qui est plus forte que tout. Donc, nouvellement baptisé Fanta Sangare, j'ai dressé la liste des noms de famille de mes cousins. Le taxi est un Kante? Wallay Bilay, ce n'est pas vrai, un forgeron. Vous êtes mon esclave, vous ne savez pas conduire. Je ne devrais pas vous donner un seul sou pour ce voyage. Ça ressemble à ça, les insultes qu'on peut se faire entre cousins, même si on est de purs inconnus. Un jour, je suis allée à l'ambassade canadienne pour me rendre compte que l'un des gardiens est un Doumbia. Je n'y croyais pas. Un forgeron. Moi, je suis noble. Je suis une Sangare, que je lui dis pour le narguer. « Je ne peux pas croire qu'ils font confiance à un fainéant comme vous pour garder l'ambassade de mon pays. Iiii !» Je continue de plus belle, mais est-ce qu'ils le savent qu'ils ont embauché un crétin comme vous pour prendre soin des ressortissants de mon pays? Et le gardien de me répondre, tout sourire et en riant, « Toi, tu as bien duré au Mali. » C'est vrai qu'avec mon boubou et mes insultes prêtes à s'abattre sur tout forgeron en vue, j'avais enfin trouvé mes repères au Mali. Et c'est peut-être en entendant rire ce gardien de l'ambassade que je m'en suis rendu compte. Insulter un fonctionnaire devant une ambassade du Canada. Je n'ose même pas m'imaginer ce qu'on aurait pu faire de moi si j'avais été dans un autre pays, un autre contexte. Les mœurs et coutumes de mes collègues me sont alors apparues aussi normales que ma manie occidentale qui me fait passer de longues heures devant mon ordinateur. Une habitude que mes amis maliens, eux, trouvaient franchement bizarre, voire anormale.
Canada, Canada, c'est moi d'entendre. Canada, Maloya, on va se manger. Canada, bien, 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 bien. Encore ciao, bonne journée, ciao, bisous.
Dans le champ lexical vous revient tout de suite après ces quelques publicités.
En attendant, vous pouvez toujours aller devenir notre ami sur Facebook ou nous jaser ça sur Twitter au @danslechampl.
Si l'émission de cette semaine vous ennuie, allez sur notre site danslechampl.com et téléchargez une de nos émissions précédentes, potentiellement plus intéressantes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre balado.
Vous êtes toujours sur les ondes de CIBL 101,5 FM. On vous revient dans quelques instants.
Normal. C'est entre l'ennui puis la légère satisfaction que tout est correct. C'est le vertige qui te pogne quand tu te dis « Hey, ma vie est normale. » Genre, il n'y a rien de croche ou il n'y a rien de bizarre en ce moment. C'est comme une bouffe dans un resto d'où tu sors avec une face de personne pas convaincue, mais quand même un peu rassasiée. C'est la fois où tu as reçu une poupée Barbie de ta grand-mère à Noël, puis que c'était pas une vraie de vraie, mais plus une vague copie. Elle était pas belle, ni laide. Elle était juste vraiment normale. C'est pas positif, ni négatif. C'est juste entre les deux. C'est quand ta face arrive pas à statuer entre un air vaguement déçu et un sourire subtil. C'est faire une soirée entre amis où ça lève pas, mais où c'était pas plate non plus. C'est aller à l'hôpital parce que tu files pas trop, puis t'espères te faire dire « c'est ça qui cloche, c'est ça qui marche pas ». Mais où on te répond « Non, non, tout est beau. » Puis toi, tu restes pogné avec ton stress. Normal, c'est l'affaire que tu te demandes toujours. C'est qui a décidé de ça? Être normal, c'est pas faire de remous. C'est être tranquille dans son coin puis se fondre dans la masse. C'est prendre son Ritalin, son lithium, ses antidépresseurs, ses hormones. C'est pas être célibataire trop longtemps. C'est jamais montrer sa colère puis la garder en dedans jusqu'à ce que t'éclates. C'est une journée où il n'y a pas de rush à ta job, puis ça te déstabilise. C'est regarder la télévision se matantiser de plus en plus, puis hausser les épaules, doucement, puis même trouver ça pas pire, des fois. C'est le dernier gars dans le bar que tu prendrais pour un one night. C'est un statut Facebook pour lequel t'espérais des likes, mais que personne ne semblait voir passer. C'est une blague que tu recommences 2-3 fois en tentant de te joindre à une conversation dans une gang que tu connais pas trop, mais que personne semble accrocher à ton histoire. C'est ce qui flirte avec le malaisant puis l'ordinaire. C'est ce qui te laisse sur ta faim ou c'est ce qui calme tes ardeurs. C'est taire la crétinerie puis l'incompétence au travail parce que, voyons donc, dis-le pas, tu vas perdre ta job. C'est une taille qui existe nulle part dans les magasins de linge. Normal. C'est bien des affaires, en tout cas. Mais je pense que c'est juste pas moi.
C'était La normalité, vue par Myriam Dagouzan-Bernier. Vous écoutez Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Et cette semaine, le mot, c'est normal.
People are strange when you're a stranger. faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Qui est normal, vu par l'économiste Yannick Marcil.
Pendant plusieurs années, je descendais tous les matins de la semaine à la station du métro Square Victoria. Une des sorties donne sur la rue Saint-Jacques, au pied d'un gratte-ciel, le siège social de Québécois. Pour atteindre cette sortie, on doit emprunter un très long corridor, très large aussi, qui monte en pente douce. À cause de sa largeur, le plafond semble démesurément bas. À l'heure de pointe du matin, la foule dense se dirige d'un pas lourd et le dos voûté vers la sortie. À de nombreuses reprises, je me suis arrêté à l'entrée de ce corridor pour regarder mes semblables qui, comme moi, marchaient quotidiennement avec automatisme vers leur travail. Tous ces gens trottant comme des robots afin de gagner leur vie me rappelaient les scènes de Métropolis de Fritz Lang, dans lesquelles on voit les ouvriers opprimés gagner l'usine dans la ville basse en rangs ordonnés. Des automates qui considèrent normal de se traîner aussi péniblement tous les matins vers un boulot qui leur plaît plus ou moins. Étudier pour avoir une job, pour consommer, pour épargner, pour prendre sa retraite, pour mourir. Normal. Le système économique est une machine à imposer la normalité aux humains. Si nous ne suivons pas certaines normes, comme travailleurs ou comme consommateurs, la machine cesserait de fonctionner. Plus le comportement des consommateurs est prévisible, normal, plus les entreprises commerciales sont en mesure de planifier avec précision et de réduire leurs risques. Pour les entreprises, la norme constitue le facteur le plus important de prévisibilité et donc de diminution de coûteux aléas. Il en va de même pour l'ensemble de l'économie. L'État, dans sa tentative de contrôler ou de stabiliser l'évolution de l'économie, cherche à normer les comportements de ses acteurs. Mais bien avant la mise en place de techniques et d'outils de politique publique, l'État doit nommer, caractériser, catégoriser et mesurer les comportements économiques. Ainsi, les plus anciennes civilisations, des Égyptiens aux Mayas en passant par les Romains, ont compris que la statistique était la meilleure amie du pouvoir politique. On n'a qu'à penser à l'importance politique du célèbre passage des Évangiles à propos du recensement en Judée. C'est le pouvoir politique qui crée les catégories sociales et économiques, littéralement. Le fait de nommer une réalité est un acte de sa mise au monde. Avant le début du 20e siècle, par exemple, il n'y avait pas de chômeurs. Non pas que l'Occident n'eût connu à ce moment une situation de plein emploi, mais simplement, la notion de chômeur n'existant pas, il était impossible d'en identifier la réalité correspondante. Ce n'est qu'en 1925 que le Bureau international du travail a proposé une première définition du chômage. Cependant, pour qu'une telle définition puisse voir le jour, il fallait que le chômage soit compris comme un phénomène en soi. En l'occurrence, un phénomène anormal par rapport à l'état de travailleur, perçu comme ayant un droit au travail, donc en défaut par rapport à sa normalité. Il faut donc nommer pour normer. Avec le temps, ces définitions se raffinent. Il y a un chômage normal et un chômage anormal. Les économistes affirmeront qu'il est normal, par exemple, qu'une économie comme la nôtre connaisse un taux de chômage de 5 ou de 6 %. Ce taux s'explique par le fait qu'il soit normal pour les travailleurs de changer d'emploi pour diverses raisons et de connaître des périodes de chômage temporaire. Certains économistes parlent même d'un taux de chômage naturel. Le pas est franchi. Une norme imposée par une certaine vision du fonctionnement de l'économie est naturalisée. Il est normal et naturel de vivre une situation quelconque, si opposée est anormal et contre nature. La norme devient, dans ce contexte, une forme politique du pouvoir économique qui favorise le maintien du statu quo. S'opposer au cycle études, boulot, consommation, épargne, retraite, mort, c'est être anormal et contre nature. S'opposer à ce qui est normal devient donc un acte révolutionnaire. À de nombreuses reprises, en regardant mes semblables marcher vers leur boulot le matin à la station du Square Victoria, j'ai eu envie de hurler « Vous n'êtes pas écœurés de travailler pour consommer et mourir, bande de caves? » Mais je ne l'ai jamais hurlé. J'ai poursuivi mon chemin vers mon travail. Je suis normal.
C'est un texte de l'économiste Yannick Marcy.
Je m'en retourne à l'Institut, à l'Institut, à l'Institut. Je m'en retourne à l'Institut. Dans le sens de la ligne de rue, la ligne de rue, la ligne de rue. Je m'en retourne à l'Institut. Je ne suis pas plus libre.
Dans le champ lexical, a demandé aux normologues Pierre-Jean Champoux et Giscard Tremblay de faire une réflexion sur ce qu'est la normalité.
Top 10 de ce qui est normal.
Numéro 7.
Ce qui est normal pour un top 10, c'est de débuter par le numéro 10.
Numéro 10.
Dans le temps, ce qui était normal pour un couple, c'était d'apprendre à se connaître, de se marier et d'avoir des enfants. Maintenant, ce qui est la norme, c'est « on fait l'amour, j'apprends que t'as des enfants et il n'est pas question qu'on se marie ».
Numéro 9.
Ce qui est normal quand tu fais tes impôts, c'est d'être pas content. Si ça te rend heureux, c'est soit que t'es comptable, soit que t'es le genre à avoir quelqu'un en captivité dans ton sous-sol.
Oh please, oh please, I'm gonna die!
Numéro 8.
Ce qui est normal dans un sex shop, contrairement à quand tu te fais poser pour le Journal de Montréal, c'est de ne pas pointer des objets au loin.
Ouais, ça va où, ça?
Numéro 6.
Ce qui est normal quand on donne la main à quelqu'un, c'est d'utiliser la main droite. Tellement que si la droite est occupée à tenir un enfant et ou un sac d'épicerie, on fera tout pour la libérer afin d'éviter d'utiliser la main gauche. Quitte à jongler avec la dite cargaison.
Numéro 5.
Ce qui est normal quand on brûle la chandelle par les deux bouts, c'est de se retrouver avec une flaque de cire.
Numéro 4.
Ce qui est normal pour le Père Noël, c'est
Le Père Noël, là, c'est un travailleur saisonnier. Est-ce qu'il accumule assez d'heures pour avoir droit au chômage? Quel genre d'emploi ça peut chercher un Père Noël? Puis admettons que le Père Noël, là, il gagne à la loterie. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Je veux dire, moi, le Père Noël, là, s'il gagne à la loterie puis il lâche sa job,
Numéro 3.
Ce qui est normal quand t'es un 3, c'est que tu vas avoir bien de la misère à te pogner un 10.
Hey, back off, le gros!
Numéro 2.
Ce qui est normal pour quelqu'un qui va dans un dépanneur, c'est d'avoir pas de cagoule.
Oui, mais tout à coup, il fait froid, là, puis qu'il y a juste une cagoule, le gars. Faut bien qu'elle mette.
Ouais, mais il va avoir l'air louche.
Hey, il y a juste à rentrer avec son skidoo en même temps.
Ah, ben oui. Ça, c'est nul.
Numéro 1.
Ce qui était normal dans le temps, c'était de lyncher sur la place publique tous ceux qui n'étaient pas normaux, qui n'entraient pas dans la norme. Aujourd'hui, tout a changé. Ce qui est normal, c'est de ne pas s'attaquer publiquement à quelque minorité que ce soit. Par exemple, nous n'aborderons pas le sujet du mariage gay des Juifs amérindiens.
Hey! T'as oublié Albinos!
Nous n'aborderons pas le sujet du mariage gay des Juifs amérindiens Albinos.
Donc on n'en parlera pas?
Non. Et je pense que c'est normal.
C'est normal, tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais alors...
la la.
Mais...
la 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 la.
Lorsqu'on connaît les causes scientifiques d'un phénomène, on peut en effet se dire qu'il est tout à fait normal qu'il survienne. Sauf que lorsqu'il s'agit d'une catastrophe potentiellement fatale, il est rare qu'on soit aussi rationnel et cérébral. La chanson « C'est normal » du tandem Brigitte Fontaine et Areski Belkacem est tirée de l'album « Je ne connais pas cet homme » paru en 1973. Bien sûr, la première chose qui frappe à l'écoute de la chanson est le calme et la détermination dont fait preuve Areski dans son rôle de vulgarisateur scientifique dans un moment où, normalement, on s'attendrait plutôt à la panique et aux cris. Mais si on est attentif, on découvre qu'il y a beaucoup plus dans cette chanson. Areski nous rappelle que tous les humains ne sont pas égaux devant les catastrophes. En effet, il explique à Brigitte Fontaine que les matériaux qui ont servi à construire l'immeuble brûlent facilement, mais que c'est normal, puisque de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers, des étrangers et quelques improductifs qui y habitent.
Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si?
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis, s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûler?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah.
Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la
mais
la
alors...
la. La 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 la
tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah,
c'est
incendie.
Normal.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu?
Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la.
Mais alors, on va tomber.
La la la.
Mais
oui.
Du 15e étage.
C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La.
D'accord.
La 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 la
la la la la la la la la la la la.
La 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 la, quoi? Quoi?
Pardon, mais je pense à un truc.
Ouais.
On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatigante.
Pardon.
Non, on est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc,
ouais.
Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc.
Ouais.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends?
Ouais, ouais.
L'autre jour, je suis allée au cinéma. Mes amis vont tous vous le dire, je suis un peu obsessive quand vient le temps d'aller au cinéma. J'ai toujours l'impression que la salle va être pleine, qu'on va être obligé de s'asseoir vraiment en avant, vraiment sur le côté ou vraiment séparés. J'insiste donc toujours pour arriver au moins 30 à 45 minutes d'avance pour des films qui sont à l'affiche depuis plusieurs semaines et au moins une heure d'avance pour les nouveautés. Il faut vraiment m'aimer beaucoup pour accepter de me suivre parce qu'au final, on arrive généralement d'avance pour rien. Fait que là, l'autre jour, je suis allée au cinéma. J'ai payé mon billet 15 $, ce qui m'a donné le privilège d'acheter mon popcorn 10 $. On s'entend, c'est pas mal du beurre et de l'air, mais captive comme je suis et amatrice de popcorn comme je suis, OK, j'accepte la game, c'est toujours de même, c'est normal. Je suis arrivée comme il se doit 45 minutes d'avance, la salle était comme il se doit vide, puis là, j'ai eu droit à des pubs sous forme de quiz, des pubs sous forme d'entrevue, des pubs sous forme de pub. C'est comme ça, depuis quelques années, c'est rendu normal. Payer 15 $ pour avoir le droit de payer du popcorn trop cher, puis me faire bombarder de pubs. J'imagine que si je suis assez folle pour arriver 45 minutes d'avance, ben, je me dois d'accepter de regarder les pubs qui vont avec. Ensuite, les lumières se sont tamisées. Excitation, c'était l'heure, enfin! Pour me rappeler que si dans le temps on passait des nouvelles et des courts-métrages avant le film, maintenant la norme c'est de passer des pubs. C'est là que j'ai appris que la guerre, c'est vraiment le fun. Tu sais, l'armée, là, c'est des gros guns, de l'adrénaline et des amis pour la vie. C'est comme les scouts, mais en plus badass. C'est aussi là que j'ai appris que la bière, ça te forme une communauté diversifiée, heureuse, ouverte, tolérante, unie. Après les 10 minutes réglementaires, c'était enfin au tour des bandes-annonces. Puis 20 minutes après l'heure prévue, le film a enfin commencé. Je suis dans un cinéma, on me présente un film, tout est finalement normalement normal. Soulagée de voir l'histoire commencer, d'arrêter le bombardement, j'ai essayé de mettre mon cerveau à off et d'ignorer que la voiture était une BMW avec son symbole en gros plan pendant qu'on se promenait dans la ville. Essayer d'oublier que c'est du coke qu'ils boivent autour de la piscine. Essayer de feindre que je m'en rends pas compte que leurs téléphones ont tous une grosse pomme à l'endos. À un moment donné, je me suis demandé si j'allais hyperventiler. C'est que la journée, elle faisait pas juste commencer. Pour me rendre au cinéma, j'ai eu droit, en attendant le métro, à un David Beckham, torse nu, qui court vers la caméra pour me vendre des boxers, bien que les boxers n'apparaissent jamais à l'écran. Trois fois, plutôt qu'une. J'ai aussi pu voir des filles langoureuses qui voulaient me vendre des souliers. Moi, je paie 80 $ par mois pour me rendre du point A au point B et me faire vendre des choses. Puis en plus, je paie de plus en plus année après année et je me fais vendre des choses de plus en plus année après année. Avant, c'était juste quelques affiches. Après, c'était aussi des escaliers roulants. Puis on a décidé de faire déborder les affiches du cadre. Et là, c'est carrément des rames complètes de métro qui se font aller dans décorations publicitaires. L'espace, public comme privé, est à vendre, deux fois plutôt qu'une. Une fois pour les publicitaires et une autre fois pour avoir la chance de l'avoir. Sérieux. Il reste bien peu d'endroits où on peut se réfugier pour avoir la paix visuelle et auditive. Quelques parcs, des bibliothèques. C'est pas mal ça. Et attendez voir. Bientôt, on va nous demander de payer pour avoir le privilège d'accéder à un lieu exempt de pub. Sérieux. C'est pas normal que ce qui soit anormal, c'est quand on essaie de rien nous vendre.
C'est tout pour cette édition de Dans le champ lexical, une édition ordinaire, bien normale, ce qui ne l'empêchait pas, on l'espère, d'être quand même une très bonne émission. Dans le champ lexical est une émission de Joanie Larue, Christiane Campagna, Nancy Caouette et Mathieu Charlebois. Nous ont livré des textes sur leur vision de ce qui est normal ou pas. Cette semaine, Myriam Dagouzan-Bernier du blog « Ma mère était hipster », Giscard Tremblay et Pierre-Jean Champoux qui nous ont fait un top 10, Evelyne Couturier qui est tannée de la pub partout, 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 et l'économiste Yannick Marcille. Joanie Larue a rencontré des membres du Blue Mushroom Circus Psycho qui vont jouer avec le feu, certains pour vrai, le 15 février prochain au Théâtre Plaza. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour le mot « fil ». D'ici là, vous pouvez trouver nos balados au danslechamplexical.com. On est également sur Twitter au @danslechampl et sur Facebook. Cherchez dans le petit engin de recherche. À mardi prochain!